Radio Kapi.
Motion de censure contre le gouvernement Ilunkamba. Sauf imprévu, l'examen par l'Assemblée nationale s'est fait aujourd'hui à Kinshasa. Mais en cas d'absence à nouveau du Premier ministre, l'Assemblée plénière va statuer souverainement, a dit le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Situation humanitaire déplorable à Zongo dans le sud Ubangi. En cause, l'afflux des milliers de centrafricains réfugiés au centre et en banlieue de Zongo. Information livrée par la société civile urbaine qui lance un SOS aux humanitaires, notamment pour une assistance urgente. L'invité de ce matin, abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, il nous parle de la récente mission pastorale à Bunia, des évêques catholiques membres de l'ACEAC et ceux de la SENCO. Madame, Messieurs, bonjour. L'examen de la motion de censure contre le gouvernement par l'Assemblée nationale se fera aujourd'hui. Une plénière est convoquée pour cela à 11h de Kinshasa. C'est sous une forte tension entre les députés du FCC et ceux de l'Union sacrée au cours de la plénière d'hier mardi que l'Assemblée plénière a voté pour ce report. Mais que va-t-il se passer donc si le Premier ministre et les députés du FCC sont absents à la plénière de ce mercredi? Écoutez la réponse que Christophe Mbosonko Diampuanga, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, a donné aux députés hier, propos recueillis par Michel Kifindangoy.
Nous avons bien démarré la session extraordinaire. Nous avons tenu compte de l'intérêt général, la paix, la cohésion, et nous avons travaillé en fonction également des respects de nos lois, la Constitution, les lois de la République et les règlements. Que nous soyons tous animés de le même esprit, du début jusqu'à maintenant. Votre bureau ne peut rien imposer à la plénière qui est souveraine. Le Premier ministre est absent. On nous présente un ordre de mission. Son retour est prévu aujourd'hui. Alors, il serait peut-être pour l'intérêt général bien de reporter les débats demain à 11h pour que le Premier ministre se présente. S'il ne se présente pas, l'Assemblée plénière va statuer souverainement.
Entre-temps, le Front commun pour le Congo dit refuser de cautionner une énième violation de la Constitution pour le président du groupe parlementaire PPRD et allié. Du fait que le bureau d'âge n'est pas compétent pour censurer un gouvernement, le FCC considère l'issue de la plénière de ce mercredi comme un non-événement, dénonçant un retour au régime totalitaire. Didi Manara précise que le Premier ministre ne démissionnera pas. Il l'a dit au téléphone de Michel Kifindangoy.
L'Union sacrée pour la nation, qui est effectivement une main noire, qui pousse M. Mbosso à la faute, arroge à Mbosso des compétences qui ne sont pas les siennes. Un bureau provisoire, le bureau d'âge, ne peut pas convoquer le gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Ça, c'est totalement inadmissible et c'est une violation de la Constitution. Au niveau du FCC, nous disons que nous n'allons pas cautionner ça et le peuple congolais est tenu à témoin. Et vraiment, tout le pouvoir maintenant sera entre les mains d'une seule personne. Le pouvoir judiciaire, vous savez que les cours et tribunaux sont déjà sous la houlette d'une seule personne. Aujourd'hui, ça sera la chute du gouvernement et tout le pouvoir maintenant sera entre les mains d'une seule personne. Maintenant, c'est le régime totalitaire. Le Premier ministre ne peut pas démissionner, il ne démissionnera pas parce qu'il est en train de faire son travail. Et si jamais il passait au forcing, eh ben nous allons tenter d'aller aux cours et tribunaux, mais sachant que notre chance de réussite est vraiment très très, très petite.
Mais pour Jacques Joly du MLC, le gouvernement Ilunga pourra tomber ce mercredi si la majorité des députés votent pour cette motion de censure. Il juge le débat de la constitutionnalité soutenu par le FCC de sans fondement, car la Cour constitutionnelle avait déjà tranché pour le bureau d'âge. Ce cadre du parti de Jean-Pierre Bemba estime que les décisions de la plénière souveraine sont opposables au gouvernement qui devra déposer sa démission dans les 24 heures. Jacques Joly au micro de Michel Kifindangoy.
Lorsque un gouvernement a perdu la confiance du chef de l'exécutif et perd par ailleurs sa majorité, comment ce gouvernement peut fonctionner politiquement? C'est impossible. Parce que le fondement du pouvoir du gouvernement, c'est la double confiance dont il tire, n'est-ce pas, et du chef de l'exécutif qui nomme et de la majorité qui l'investit. Alors, sur le plan strictement du droit, les articles 146 et 147 de la Constitution sont clairs. À partir du moment où le débat sera déclenché, s'il y a un vote défavorable au gouvernement, la Constitution dit clairement que le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Eh bien, le président désignerait un formateur, il y aurait un gouvernement et...
Je vous le disais en titre, la situation humanitaire est de plus en plus déplorable à Zongo dans le sud d'Ubangi. C'est la conséquence de l'afflux migratoire de plus de 20 000 centrafricains réfugiés au centre et en banlieue de la ville. Des données livrées par la société civile urbaine qui lance un SOS à cause de la surpopulation actuelle. Elle déplore la destruction de l'environnement ainsi que le manque d'aliments, d'eau potable, d'abris, d'installations hygiéniques et surtout des tests de coronavirus effectués sur les immigrés. Suivez le cri d'alarme du président de la société civile Force Vive de Zongo, le pasteur Blaise Mobemba, joint par Paul-Richard Malengela.
Depuis le 13 janvier 2021, il y a eu l'afflux massif des Centrafricains qui sont arrivés sur les sols de la mairie de Zongo. Alors, depuis tout ce temps, je pense que le maire de la ville avait lancé l'alerte au niveau des radios. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la société civile déplore les retards et l'intervention gouvernementale au niveau central et aussi au niveau provincial. En ce moment, nous avions effectué une descente sur terrain à travers les ONG locales. Il y a dénombré plus de 20 000 personnes qui n'essaient d'arriver. Alors, les villages qui reçoivent ces réfugiés sont débordés. Ce sont des villages qui n'ont même pas de moyens de subsistance. Il y a des sérieux problèmes qui se posent au niveau environnemental, au niveau des roches, au niveau des abris et même au niveau de la sécurité alimentaire et des nutritions. Vous savez, nous sommes pendant la période de la pandémie. Nous n'avons même pas un centre de dépistage. Donc, nous lançons ces SOS à l'égard de l'opinion internationale, voire provinciale, pour une intervention idoine. Sinon, nous allons assister aux catastrophes dans la ville des hommes.
Direction Nord Kivu. Au moins 300 000 personnes n'ont pas quotidiennement accès à une eau potable dans l'ouest de la ville de Goma. Pour régler ce problème, plusieurs acteurs étatiques, humanitaires ainsi que le corps diplomatique se réunissent depuis hier à Goma. C'est sur invitation du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Pendant deux jours, ils vont réfléchir sur les moyens de mettre en place un système qui va au-delà de l'approche humanitaire, dit la chef régionale de la délégation du CICR, Rachel Bernard, est au micro de Rosalie Zawadi.
Et là, on ne peut pas avoir une approche seulement humanitaire. Il faut réussir à mettre en partenariat les approches de développement, les secteurs publics, les secteurs privés, les approches humanitaires, les partenaires techniques, ceux qui ont des visions financières. Il faut travailler sur le cadre réglementaire. On a une nouvelle loi sur l'eau qui permettrait de privatiser les exploitants de l'eau depuis 2015, qui n'est pas encore publiée. On a d'autres opportunités, des options de travailler à rendre ce projet pas simplement techniquement faisable, mais viable avec un bon système d'exploitation. Et c'est là que le CICR seul ne peut pas le faire. Il doit s'associer à la fois au public, au privé et à des modes de financement et des ampleurs qui dépassent le seul humanitaire. Par exemple, la réhabilitation d'une infrastructure, elle est réhabilitée. Maintenant, qui va la maintenir? Quel exploitant va la rendre viable? Va en retirer un revenu pour pouvoir faire les travaux de maintenance nécessaires sur la suite? Et c'est là-dessus qu'on a envie vraiment d'engager, parce qu'il y a des très très bonnes opportunités avec cette nouvelle loi sur l'eau, avec l'intérêt des autorités centrales au niveau de Kinshasa, provinciales, au niveau de la mairie. Donc on essaie vraiment de travailler dans cette direction-là.
Rappelons que le CICR intervient dans les projets de construction, réhabilitation et maintenance des infrastructures de production d'eau depuis près de 3 décennies maintenant à Goma. Selon cette organisation, la croissance exponentielle de la population de Goma à cause de l'insécurité dans les milieux ruraux exacerbe le défi de manque d'eau dans les nouveaux quartiers. 115% jusqu'à octobre 2020, équivalent de plus ou moins 94 milliards de francs congolais sur 82 milliards d'assignations pour 2020. Ce sont les réalisations des recettes dont se félicite le ministère congolais de l'Environnement et Développement Durable. Satisfaction due à l'exercice de signature d'actes d'engagement que le ministère impose à tout coordonnateur de l'environnement dans les 26 provinces du pays. Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement, l'a dit à la presse mardi après une autre autre séance de signature, date d'engagement pour cette année 2021. Explication de Billy Van Lutumba.
Grâce à cet exercice devenu obligatoire chaque année, le ministre se réjouit qu'en considérant les mois de novembre et décembre, ils devront atteindre 120% de réalisation.
J'ai tenu à les encourager et à leur démontrer qu'il était possible de faire mieux. Nous voulons contribuer au budget de notre État pour le bien de notre peuple. Chacun des ministères d'assiette doit tout mettre en œuvre pour que les fonctionnaires de l'État commis à cette charge fassent correctement leur travail.
Appelés à collecter les taxes au profit du trésor public auprès des assujettis, les chefs des divisions provinciales se sont une fois assumés malgré les défis de tous ordres auxquels ils font face au niveau local, comme l'affirme l'Andeum.
Il y a l'exploitation illicite des bois d'œuvre par les autorités militaires, politiques et même judiciaires qui s'ingèrent dans l'exploitation illicite d'arbres. Il y a le manque d'accompagnement par le gouvernement central et voire même provinciaux auprès des administrations provinciales de l'environnement. Il y a certaines coordinations provinciales qui n'ont même pas de bureau. En province, le gouverneur repousse les coordinateurs souvent en disant qu'ils relèvent des services déconcentrés.
Difficulté prise en compte par le ministre Claude Nyamugabo qui s'est aussi engagé à obtenir de tous les officiels mis en cause leur engagement à respecter ce travail de maximisation des recettes. Plus ou moins 84 milliards de francs congolais, voilà ce que l'autorité budgétaire attend du ministère de l'Environnement durable à la fin de cette année 2021.
Et puis, un nouveau centre de production agricole vient d'être implanté par le service national sur le site de Lovo, Congo central, dans le territoire de Kwilungongo. Près de 100 bâtisseurs du service national y sont déjà déployés. Dans deux semaines, ça sera déjà la récolte des premiers maïs produits sur place. Et dans quelques jours, le centre de Lovo accueillera aussi les jeunes délinquants appelés Kuluna pour la formation en éducation civique. La description de ce nouveau centre de production agricole du service national avec vous, J.R. Lungembo.
Lovo est une cité située à 41 km de Kinshasa et à près de 200 km de Kinshasa. C'est sur ce site de Lovo, situé aux côtés du site de la sucrière de Kwilungongo au Congo central, que le service national a décidé depuis le mois de novembre 2020 d'implanter un autre centre de production agricole sur instruction du chef de l'État pour répondre aux besoins pressants en produits de première nécessité tels que le maïs dans la partie ouest du pays. À l'instar du centre pilote de Kanyama-Kasese, le centre Lovo dans le Congo central, qui n'est opérationnel qu'il y a 4 mois, près de centaines de bâtisseurs du service national s'y adonnent à la production agricole et bénéficient en même temps de la formation patriotique. Selon le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuit, commandant du service national, 4 mois après, le résultat est à encourager et très prometteur pour l'avenir de ce nouveau centre, qui est la matérialisation de l'idée du père fondateur du service national. Mais il faut signaler que cette performance est réalisée par les moyens des bords et que ce centre accueillera dans les prochains jours les jeunes délinquants communément appelés Kuluna.
Et au lendemain de l'adoption du projet de loi portant adhésion de la RDC à la zone de la libre-échange, les voix s'élèvent. À Kananga, le Parti Congo Positif a lancé une campagne de collecte des signatures contre cette initiative. Son président national explique à Radio Kapi que la RDC devait poser certains préalables pour qu'elle soit compétitive et faire face à la concurrence dans cet espace économique africain. Dieudonné Nkishi cite entre autres la création des zones économiques spéciales à travers le pays. Il est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Il était prévu de créer des zones économiques spéciales en prélude de ces choses, des zones de libre-échange, pour les grands ensembles Kinshasa, Katanga, Kivu, Kasai et Équateur. Dites-moi où est-ce que ces zones économiques spéciales sont opérationnelles. C'est dans cet état-là qu'on veut nous amener dans un marché où les frontières sont cassées alors que notre pays n'est pas prêt. Mais il représente une puissance à exploiter. Exploitons d'abord notre puissance économique. Après, nous allons avoir les arguments pour pouvoir rentrer dans une zone de libre-échange continental. Le samedi, nous récupérons toutes les signatures que nous sommes en train de prendre et sur le terrain et en ligne. La semaine prochaine déjà, nous allons nous présenter auprès du président de la République pour lui remettre notre pétition et nous déposerons la même pétition auprès du président de l'Assemblée nationale, mais aussi auprès du bureau du président du Sénat.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Mozambique. Le cyclone Héloïse a laissé 250 000 personnes en détresse, a affirmé mardi la représentante de l'ONU dans ce pays. Ceci ramène en forte hausse le nombre des sinistrés estimés la veille à environ 170 000. Nous sommes très inquiets et les besoins augmentent, a souligné Myrta Kaoulard lors d'une liaison vidéo avec des journalistes à l'ONU en New York, précisant que l'évaluation de l'impact du cyclone était toujours en cours.
L'invité.
Des évêques catholiques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont clôturé dimanche leur séjour de travail à Bunia dans l'Ituri, où ils étaient en mission pastorale. Durant 3 jours, ces prélats ont échangé avec les autorités locales ainsi que les différentes couches sociales concernant la situation sécuritaire dans cette province. Mais quelle lecture font-ils de la crise qui affecte cette partie du pays? L'abbé Jean-Pierre Badidi, qui est secrétaire général de la CEAC, répond aux questions de Jean-Claude Loki.
Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidiki, bonjour.
Bonjour.
Les évêques ont achevé une mission de travail de 3 jours, une mission pastorale. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette mission à travers la province de l'Ituri?
Ce qu'on peut retenir, c'est que les évêques de la CENCO et de la CEAC ont palpé du doigt en tant que délégués des autres évêques. Ils ont, au nom de leurs confrères évêques, palpé du doigt la gravité de la situation. Donc la particularité, c'est qu'ils sont descendus à la base, ils ont vu, ils ont rencontré des personnes et ils se sont rendus compte non seulement que la situation est grave, mais qu'elle est complexe et ne peut pas être traitée à la légère. Ça, c'est la première leçon qu'ils ont tirée. La deuxième leçon, c'est que nous avons des éléments de compréhension, mais nous ne pouvons pas prétendre avoir tout compris. Troisième leçon qu'on retient, c'est que tout ne s'arrête pas à la mission. La mission était une étape de collecte des données. Mais maintenant, l'étape la plus importante qui reste pour eux, c'est d'assurer les suivis pour tenter de serrer les attentes et voir comment les différentes structures impliquées, soit du côté de l'Église, soit du côté des pouvoirs publics, des humanitaires, des représentations diplomatiques, quels sont les domaines de compétences de chacun pour que tout le monde retrouve aussi sa part des responsabilités.
Ils sont venus apporter un message de réconfort, mais ils sont aussi venus pour en tout cas compatir avec les victimes. Voilà, le vendredi, les évêques sont allés sur le site des déplacés de Kigonze, et quel constat ils ont fait justement après avoir rencontré ces personnes qui vivent. Je ne sais pas dans quelles conditions vous les avez vus, vous les avez trouvés.
Je dois avouer que certains ont eu du mal à dissimuler leur émotion, hein, parce qu'ils devaient rester nobles et élégants devant la foule. Mais vous aurez remarqué que les visages étaient fades, avec des mines défaites. Entendre qu'il y a des déplacés, c'est une chose. Ils ont essayé, ils ont parcouru quand même certaines rues du camp des déplacés. Bien que ça soit un des meilleurs camps sur le plan de l'érection et de l'implantation, c'était quand même difficile de voir ces femmes qui dorment par terre. Et le moment le plus fort, c'était la rencontre avec les mutilés de guerre. Ces personnes avec des jambes amputées au niveau des genoux, des bras disséqués, des marques de blessures sur... Notre attaché de presse, par exemple, il n'a pas pu continuer son reportage. Il a dû abandonner à un certain moment pour aller pleurer. Hein, parce que ça, vous touchez du doigt les conséquences de la guerre. Et comme Monseigneur m'a dit, il disait, la guerre, c'est la mère de toutes les misères. Et là, on a eu une illustration.
Quelle solution justement pour répondre à leurs besoins, pour soulager leur calvaire? Vous avez rencontré justement les autorités gouvernementales, du moins je parle de la province orientale, plutôt en de l'Ituri, mais vous avez également rencontré les humanitaires à travers OCHA et même la MONUSCO. Quelles ont été les recommandations des prélats justement pour, tant soit peu, je l'ai dit, hein, soulager la souffrance des victimes de ces atrocités barbares de l'Ituri?
Bon, les humanitaires, hein, ils ont souvent des réponses qu'on connaît, et avec raison, ils disent toujours, c'est pas leur responsabilité première, hein. Eux viennent appuyer le gouvernement de notre pays, et ils apportent ce qu'ils peuvent apporter en fonction des aides qu'ils récoltent à travers le monde, ou ce que certains d'autres pays récoltent. Donc, ce qu'ils font jusqu'à présent pour soulager la population, c'est en fonction des moyens, qui ont été mis à leur disposition. Nous avons fait un plaidoyer pour qu'ils en trouvent davantage. Et cela fait partie aussi du plaidoyer que les évêques vont faire auprès de leurs ambassades, auprès de leurs pays, pour qu'on augmente l'enveloppe mise à leur disposition. Alors la cible la plus importante, c'est notre gouvernement, donc que les évêques doivent aller rencontrer pour qu'ils fassent, parce que c'est eux qui ont la responsabilité légale des soulager avant de faire appel à des aides bilatérales ou multilatérales. Il n'y a pas beaucoup de solutions au niveau local ici de la province, parce que les autorités nous ont dit qu'ils sont aussi asphyxiés. S'attaquer à l'humanitaire, à l'insécurité, aux problèmes politiques, ils n'ont même pas eu le temps de faire tout leur programme de développement, les routes, le ceci. Donc il faut reconnaître qu'ils sont aussi asphyxiés. Et aussi, ils ont demandé que les évêques relayent leurs doléances auprès des structures centrales.
Je vous dis merci, monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidiké.
Merci à vous aussi et bon travail.
Le secrétaire général de l'ACEAC, l'abbé Jean-Pierre Badidiké, répondait aux questions de Jean-Claude Loki. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.